Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Επίπεδο Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Activité 1. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Le fameux bureau des objets trouvés, rien qu'à Paris, on y apporte chaque année 180 000 objets perdus. Le reportage de Jocelyn Huchet.
75 000 objets sur 500 mètres carrés. Ce sont les réserves du service des objets trouvés à Paris. Portefeuilles, pièces d'identité et téléphones portables attendent ici le retour éventuel de leurs propriétaires.
Tous les objets que vous avez là correspondent à un mois d'objets. Il peut y avoir des doudous, il y a des écharpes également, des bonnets, des gants.
Il y a aussi quelques curiosités, comme cette urne funéraire, des crânes et même ces pierres du World Trade Center de New York. Chaque année, environ 45 000 objets sont rendus à leurs propriétaires dans cet endroit. Des clés, un téléphone et un parapluie, voici les objets le plus souvent perdus. D'où l'idée de ce groupe d'entrepreneurs pour aider les étourdis. Un numéro de téléphone et un site internet pour signaler les objets perdus ou trouvés.
Vous apposez sur tous les objets que vous ne souhaitez pas perdre des badges, porte-clés et des étiquettes de différentes tailles pour pouvoir retrouver vos objets en cas de perte.
Ernest a bénéficié de ce service il y a quelques semaines après avoir perdu son téléphone portable dans un centre commercial.
Et sur mon téléphone, j'ai tous les fichiers fournisseurs et surtout aussi des clients. Donc mes fournisseurs, c'est important parce que pour passer les commandes. Des contacts en Italie, puisque donc je fais venir des produits directement d'Italie.
Depuis la création du site, il y a un an, quelques centaines d'objets étiquetés ont été perdus et retrouvés.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Le fameux bureau des objets trouvés, rien qu'à Paris, on y apporte chaque année 180 000 objets perdus. Le reportage de Jocelyn Huchet.
75 000 objets sur 500 mètres carrés. Ce sont les réserves du service des objets trouvés à Paris. Portefeuilles, pièces d'identité et téléphones portables attendent ici le retour éventuel de leurs propriétaires.
Tous les objets que vous avez là correspondent à un mois d'objets. Il peut y avoir des doudous. Il y a des écharpes également, des bonnets, des gants.
Il y a aussi quelques curiosités, comme cette urne funéraire, des crânes et même ces pierres du World Trade Center de New York. Chaque année, environ 45 000 objets sont rendus à leurs propriétaires dans cet endroit. Des clés, un téléphone et un parapluie, voici les objets le plus souvent perdus. D'où l'idée de ce groupe d'entrepreneurs pour aider les étourdis. Un numéro de téléphone et un site internet pour signaler les objets perdus ou trouvés.
Vous apposez sur tous les objets que vous ne souhaitez pas perdre des badges, porte-clés et des étiquettes de différentes tailles pour pouvoir retrouver vos objets en cas de perte.
Ernest a bénéficié de ce service il y a quelques semaines après avoir perdu son téléphone portable dans un centre commercial.
Et sur mon téléphone, j'ai tous les fichiers fournisseurs et surtout aussi des clients. Donc mes fournisseurs, c'est important parce que pour passer les commandes. Des contacts en Italie, puisque donc je fais venir des produits directement d'Italie.
Depuis la création du site il y a un an, quelques centaines d'objets étiquetés ont été perdus et retrouvés.
Activité 2. Lisez la consigne. Item 6A. Écoutez.
On ne se jette pas sur le pain avant l'entrée, et surtout, on ne se resserre pas 15 fois. Si la maîtresse de maison vous propose de vous resservir, refusez, puis acceptez lorsqu'elle vous le propose à nouveau.
Item 7A.
Écoutez.
Si la ponctualité est d'usage dans toutes les situations de la vie quotidienne, a contrario, il est de bon ton, lorsque vous êtes convié chez quelqu'un, d'arriver avec un peu de retard. Attention, pas une heure, mais 10 à 20 minutes constituent une bonne marge pour ne pas arriver trop tôt.
Item 8A.
Écoutez.
On ne commence pas à manger ni à boire avant que la maîtresse de maison nous y ait invités. Et on ne s'assoit pas avant tout le monde, au risque de passer pour quelqu'un de mal élevé.
Item 9A.
Écoutez.
Le traditionnel bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison est toujours apprécié. Mais vous pouvez aussi essayer de vous démarquer un peu, avec des chocolats, des macarons, ou une bouteille de whisky par exemple. Évitez de ramener un dessert, ce qui voudrait implicitement dire que la maîtresse de maison n'y aurait pas pensé.
Item 10A.
Écoutez.
Être volubile et sociable, parler avec tous les convives, c'est bien. Mais il est de très mauvais goût de monopoliser la conversation ou de trop parler de soi. Laissez parler votre interlocuteur, évitez de le contredire trop fermement et ne faites pas durer l'échange trop longtemps.
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses.
Item 6A.
Écoutez.
On ne se jette pas sur le pain avant l'entrée, et surtout, on ne se resserre pas 15 fois. Si la maîtresse de maison vous propose de vous resservir, refusez, puis acceptez lorsqu'elle vous le propose à nouveau.
Item 7A.
Écoutez.
Si la ponctualité est d'usage dans toutes les situations de la vie quotidienne, a contrario, il est de bon ton, lorsque vous êtes convié chez quelqu'un, d'arriver avec un peu de retard. Attention, pas une heure, mais 10 à 20 minutes constituent une bonne marge pour ne pas arriver trop tôt.
Item 8A.
Écoutez.
On ne commence pas à manger ni à boire avant que la maîtresse de maison nous y ait invités. Et on ne s'assoit pas avant tout le monde, au risque de passer pour quelqu'un de mal élevé.
Item 9A.
Écoutez.
Le traditionnel bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison est toujours apprécié. Mais vous pouvez aussi essayer de vous démarquer un peu, avec des chocolats, des macarons, ou une bouteille de whisky par exemple. Évitez de ramener un dessert, ce qui voudrait implicitement dire que la maîtresse de maison n'y aurait pas pensé.
Item 10A.
Écoutez.
Être volubile et sociable, parler avec tous les convives, c'est bien. Mais il est de très mauvais goût de monopoliser la conversation ou de trop parler de soi. Laissez parler votre interlocuteur, évitez de le contredire trop fermement et ne faites pas durer l'échange trop longtemps.
Activité 3. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses du premier extrait. Écoutez le premier extrait.
Et sur notre banc d'essai cette semaine, les textiles du futur, des tissus de haute technologie qui ne se limitent plus au secteur du sport, de l'armée ou de la santé, puisqu'ils font déjà partie de notre quotidien. Par exemple, cette veste, aussi chaude qu'une doudoune, mais qui présente l'avantage d'avoir l'épaisseur d'une veste d'été, très légère donc à porter. Des mois de recherche ont été nécessaires pour mettre au point les fibres synthétiques de ce type de vêtements. Pour les plus sportifs, voici un tissu qui empêche la prolifération bactérienne grâce à des fibres spéciales traitées aux ions d'argent. Les mauvaises odeurs sont donc écartées tout en maintenant l'équilibre biologique de la peau. Et puis, le rêve de l'invisibilité bientôt concrétisé. En portant un imperméable, par exemple, vous devenez transparent pour l'individu qui se trouve en face de vous. Mais si cette personne se décale, eh bien, l'effet disparaît.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Et sur notre banc d'essai cette semaine, les textiles du futur, des tissus de haute technologie qui ne se limitent plus au secteur du sport, de l'armée ou de la santé, puisqu'ils font déjà partie de notre quotidien. Par exemple, cette veste, aussi chaude qu'une doudoune, mais qui présente l'avantage d'avoir l'épaisseur d'une veste d'été, très légère donc à porter. Des mois de recherche ont été nécessaires pour mettre au point les fibres synthétiques de ce type de vêtements. Pour les plus sportifs, voici un tissu qui empêche la prolifération bactérienne grâce à des fibres spéciales traitées aux ions d'argent. Les mauvaises odeurs sont donc écartées tout en maintenant l'équilibre biologique de la peau. Et puis, le rêve de l'invisibilité bientôt concrétisé. En portant un imperméable, par exemple, vous devenez transparent pour l'individu qui se trouve en face de vous. Mais si cette personne se décale, eh bien, l'effet disparaît.
Lisez les hypothèses du deuxième extrait. Maintenant, écoutez le deuxième extrait.
Alors, quel avenir pour ces tissus de haute technologie? Quelles innovations? On en parle tout de suite avec notre experte du jour, Caroline David, commissaire de l'exposition Futuro Textile en France.
C'est la fonctionnalité du vêtement qui va primer. Pouvoir faire autre chose avec un vêtement, se connecter par exemple. Donc la fonction première, qui est d'habiller, passera vraiment au second plan puisque, de toute manière, tous les vêtements la réalisent. Rajouter une fonctionnalité va permettre de communiquer dans la rue, de recharger son téléphone, etc. C'est ça le vêtement de demain. C'est le vêtement multifonction. Le prix d'un vêtement technologique, s'il est au stade du prototype numéro 1, bon, bien sûr que ça va coûter cher puisque cela va englober quelquefois des années de recherche. Mais plus on va avancer dans le temps, ça peut se mesurer en 1 an, 2 ans, voire 10 ans, eh bien, les vêtements deviendront des vêtements à des prix tout à fait corrects et absolument pas prohibitifs. L'ultra-légèreté, c'est sans doute une des obsessions à l'heure actuelle dans le monde du textile et d'une recherche où l'on doit faire de plus en plus léger et de plus en plus résistant. C'est sans doute, là aussi, où l'on verra les plus grands développements, les plus grandes innovations demain.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Alors, quel avenir pour ces tissus de haute technologie? Quelles innovations? On en parle tout de suite avec notre experte du jour, Caroline David, commissaire de l'exposition Futuro Textile en France.
C'est la fonctionnalité du vêtement qui va primer. Pouvoir faire autre chose avec un vêtement, se connecter par exemple. Donc la fonction première, qui est d'habiller, passera vraiment au second plan puisque de toute manière, tous les vêtements la réalisent. Rajouter une fonctionnalité va permettre de communiquer dans la rue, de recharger son téléphone, etc. C'est ça le vêtement de demain. c'est le vêtement multifonction. Le prix d'un vêtement technologique, s'il est au stade du prototype numéro 1, bon, bien sûr que ça va coûter cher, puisque cela va englober quelquefois des années de recherche. Mais plus on va avancer dans le temps, ça peut se mesurer en 1 an, 2 ans, voire 10 ans, eh bien, les vêtements deviendront des vêtements à des prix tout à fait corrects et absolument pas prohibitifs. L'ultra-légèreté, c'est sans doute une des obsessions à l'heure actuelle dans le monde du textile et d'une recherche où l'on doit faire de plus en plus léger et de plus en plus résistant. C'est sans doute là aussi où l'on verra les plus grands développements, les plus grandes innovations demain.
Activité 4. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Dans le domaine de l'environnement, mais en France, cette fois, cette initiative prise par 25 petites communes qui ont imaginé une méthode pour réduire les déchets. Francine Buchier et Laurence Aubat nous expliquent.
La recette paraît toute simple. Pour réduire les déchets, il faut commencer par mettre à part tout ce qui peut se composter. Ensuite, trier ce qui peut se recycler. Ce qui reste, le moins lourd possible, va dans la grande poubelle pour être enfoui.
Sous le conteneur, vous avez une puce.
La puce va être identifiée.
Ensuite, ça va être basculé dans la benne et instantanément, on sait le poids de la poubelle.
Grâce à ce système d'identification, on sait aussi combien de fois chacun présente sa poubelle et on module les tarifs. En France, le système a été adopté par une centaine de communes seulement. Il demande aussi une prise de risque, car ce sont les élus qui envoient la facture et non pas le trésor public par le biais de l'impôt.
Tout le système est fondé sur la responsabilisation de l'usager et la responsabilisation de la collectivité et de l'élu qui prend la responsabilité d'envoyer la facture et donc d'assumer l'éventuel mécontentement de quelques-uns.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Dans le domaine de l'environnement, mais en France, cette fois, cette initiative prise par 25 petites communes qui ont imaginé une méthode pour réduire les déchets. Francine Buchier et Laurence Aubat nous expliquent.
La recette paraît toute simple. Pour réduire les déchets, il faut commencer par mettre à part tout ce qui peut se composter. Ensuite, trier ce qui peut se recycler. Ce qui reste, le moins lourd possible, va dans la grande poubelle pour être enfoui.
Sous le conteneur, vous avez une puce.
La puce va être identifiée.
Ensuite, ça va être basculé dans la benne et instantanément, on sait le poids de la poubelle.
Grâce à ce système d'identification, on sait aussi combien de fois chacun présente sa poubelle et on module les tarifs. En France, le système a été adopté par une centaine de communes seulement. Il demande aussi une prise de risque, car ce sont les élus qui envoient la facture et non pas le trésor public par le biais de l'impôt.
Tout le système est fondé sur la responsabilisation de l'usager et la responsabilisation de la collectivité et de l'élu qui prend la responsabilité d'envoyer la facture et donc d'assumer l'éventuel mécontentement de quelques-uns.
Activité 5. Lisez la consigne. Écoutez.
Dans son rapport annuel rendu public mardi 11 février, la Cour des comptes pointe les avantages tarifaires accordés par la SNCF à ses salariés et à leurs proches. Pour le moment, ce sont environ 1 100 000 personnes qui bénéficient de billets gratuits ou quasiment gratuits, de manière illimitée pour certains, mais restreinte pour d'autres. Sur ce nombre, seuls 15% sont des agents SNCF actifs, les autres sont soit des agents retraités, soit des proches ayant droit, enfants, conjoints, ascendants. La SNCF chiffre le coût de cet avantage à 20 millions d'euros annuels. La Cour avance quant à elle le chiffre de 50 à 100 millions d'euros en 2011. La Cour des comptes préconise de réduire cet avantage, notamment de supprimer ou de limiter les droits des ascendants d'un agent à circuler gratuitement. Les syndicats, eux, refusent toute remise en cause et souhaitent conserver ce qu'ils décrivent comme un droit et un élément de leur contrat de travail. Sur les 100 millions d'euros qu'ont coûté les facilités de circulation en 2011, le montant estimé alloué aux proches des cheminots s'élevait à 85 millions d'euros.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Dans son rapport annuel rendu public mardi 11 février, la Cour des comptes pointe les avantages tarifaires accordés par la SNCF à ses salariés et à leurs proches. Pour le moment, ce sont environ 1 100 000 personnes qui bénéficient de billets gratuits ou quasiment gratuits, de manière illimitée pour certains, mais restreinte pour d'autres. Sur ce nombre, seuls 15% sont des agents SNCF actifs, les autres sont soit des agents retraités, soit des proches ayant droit, enfants, conjoints, ascendants. La SNCF chiffre le coût de cet avantage à 20 millions d'euros annuels. La Cour avance quant à elle le chiffre de 50 à 100 millions d'euros en 2011. La Cour des comptes préconise de réduire cet avantage, notamment de supprimer ou de limiter les droits des ascendants d'un agent à circuler gratuitement. Les syndicats, eux, refusent toute remise en cause et souhaitent conserver ce qu'ils décrivent comme un droit et un élément de leur contrat de travail. Sur les 100 millions d'euros qu'ont coûté les facilités de circulation en 2011, le montant estimé alloué aux proches des cheminots s'élevait à 85 millions d'euros.
Activité 6. Lisez la consigne. Lisez les 5 questions. Écoutez.
À présent, la situation des familles monoparentales. Aujourd'hui, elles représentent près de 2 millions de foyers en France. 30% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Dans l'immense majorité, ce sont des femmes seules qui doivent tout gérer. Elles témoignent ce soir dans l'enquête du 20h.
Ce n'est pas par gaieté de cœur que Catherine fait le tri dans ses placards.
Je pense que ça, je peux quand même en tirer un bon prix.
Cette mère de 3 enfants a divorcé il y a 1 an. Revendre ses affaires, c'est le seul moyen qu'elle ait trouvé pour arrondir ses fins de mois.
Le pantalon et la veste représentent ce que je gagne aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
800 euros.
Il y a 1 an, Catherine était directrice des ressources humaines. Elle gagnait 8000 euros par mois. Aujourd'hui, si elle s'en sort, c'est grâce à l'aide de ses enfants qui multiplient les petits emplois en marge de leurs études.
Ça m'arrive d'aller faire les courses pour la maison, d'aller faire les courses avec ma maman et que ce soit moi qui règle le chariot. Comparé à la vie qu'on avait avant, il y a 3 ans en arrière, oui, on peut dire qu'on a un statut de, je dirais, de précarité.
L'histoire de Catherine, c'est aussi celle qu'a vécue Nathalie Guélier. Il y a quelques années, elle a divorcé et elle s'occupe de son fils.
Il y a 30% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Et rien n'est fait pour les aider, ni mesures spécifiques, ni tarifs privilégiés dans les transports, comme c'est le cas par exemple pour les familles nombreuses. Comme Florence, Catherine ou Nathalie, ce sont des femmes, dans 85% des cas, qui sont à la tête d'une famille monoparentale et sont confrontées à cette précarité. Pour les sociologues, cette situation n'est que le reflet de l'inégalité homme-femme dans le monde du travail.
Quand les enfants apparaissent, encore aujourd'hui, les femmes se désengagent en partie de leur travail. Dès qu'il y a séparation, l'infériorité économique de la femme apparaît. Et donc, il faudrait des procédures de compensation qui se mettent en place et elles sont nettement insuffisantes.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
À présent, la situation des familles monoparentales. Aujourd'hui, elles représentent près de 2 millions de foyers en France. 30% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Dans l'immense majorité, ce sont des femmes seules qui doivent tout gérer. Elles témoignent ce soir dans l'enquête du 20h.
Ce n'est pas par gaieté de cœur que Catherine fait le tri dans ses placards.
Je pense que ça, je peux quand même en tirer un bon prix.
Cette mère de 3 enfants a divorcé il y a 1 an. Revendre ses affaires, c'est le seul moyen qu'elle ait trouvé pour arrondir ses fins de mois.
Le pantalon et la veste représentent ce que je gagne aujourd'hui.
C'est-à-dire
800 euros.
Il y a 1 an, Catherine était directrice des ressources humaines. Elle gagnait 8000 euros par mois. Aujourd'hui, si elle s'en sort, c'est grâce à l'aide de ses enfants qui multiplient les petits emplois en marge de leurs études.
Ça m'arrive d'aller faire les courses pour la maison, d'aller faire les courses avec ma maman et que ce soit moi qui règle le chariot. Comparé à la vie qu'on avait avant, il y a 3 ans en arrière, oui, on peut dire qu'on a un statut de précarité.
L'histoire de Catherine, c'est aussi celle qu'a vécu Nathalie Guélier. Il y a quelques années, elle a divorcé et elle s'occupe de son fils.
Il y a 30% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Et rien n'est fait pour les aider, ni mesures spécifiques, ni tarifs privilégiés dans les transports, comme c'est le cas par exemple pour les familles nombreuses. Comme Florence, Catherine ou Nathalie, ce sont des femmes, dans 85% des cas, qui sont à la tête d'une famille monoparentale et sont confrontées à cette précarité. Pour les sociologues, cette situation n'est que le reflet de l'inégalité homme-femme dans le monde du travail.
Quand les enfants apparaissent, encore aujourd'hui, les femmes se désengagent en partie de leur travail. Dès qu'il y a séparation, l'infériorité économique de la femme apparaît. Et donc, il faudrait des procédures de compensation qui se mettent en place et elles sont nettement insuffisantes.
Τέλος της εξέτασης. Καλή επιτυχία!